c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30.
Bonjour à tous, bonjour nos ados. Et je vais faire ça tout de suite au début de l'émission parce que j'oublie toujours et je voulais remercier Lucas, notre super technicien. Parce que chaque fois je me note de le dire et j'oublie de le dire. Donc aujourd'hui je vais ouvrir avec ça et ce sera très bien comme ça c'est fait. Merci Lucas. On reçoit aujourd'hui pour la deuxième fois notre ami Vincent Schuller qui est hypnothérapeute et thérapeute psychocorporel. Donc je vous invite à écouter le podcast de la première émission pour tout comprendre à ce que nous allons dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va répondre aux questions de nos ados. Et si on a le temps, je l'espère, on va faire un petit exercice, n'est-ce pas Vincent, bonjour.
Ça marche, ouais.
Un petit exercice en live comment t'appelles ?
D'hypnose.
Je peux le dire.
Hypnose.
Mais tiens, remarque que je n'ose pas utiliser.
Tu peux oser dire le mot hypnose et tu resteras consciente et à peu près maître de ton corps, ça ira.
D'accord. J'ai pas peur.
T'as pas peur,
ok. Il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Tu ne te retrouveras pas à faire Elvis Presley dans cette salle.
D'accord. Pourtant, j'ai un petit talent. Bon, enfin, c'est pas aujourd'hui qu'on va le constater, c'est pas grave. Alors, on va tout de suite commencer avec les questions d'ados et de parents sur tout ce qui concerne la thérapie par l'hypnose. Alors, la première question, donc bien sûr, vos questions sont anonymes, les ados, vous le savez. Hein. La première question était une question, bon, je vais même pas dire d'initiale ni d'âge, ça n'a pas d'importance. Donc, mes parents me disent que je suis trop stressée, mais si je ne stresse pas, je ne fais rien d'efficace. Est-ce que l'hypnose peut m'aider à créer uniquement du stress efficace ? C'est intéressant comme question, Vincent.
Ouais, c'est super intéressant.
Elle est élevée dans le stress, cette jeune fille. Ah, pardon, cette jeune fille, vraisemblablement.
Cette jeune fille qui est peut-être un jeune garçon, du coup. Oui. Non, blague à part. Oui, on parle souvent de la question du bon stress, du mauvais stress. Et c'est vrai que le stress, c'est un truc qui est aidant, en fait. C'est souvent un truc qui est positif. Un sportif qui va faire une course à un moment de sprint va activer le stress parce que le stress va avoir des effets corporels qui vont permettre de booster à un moment son tonus musculaire, sa rapidité. Si je suis stressé, je vais pouvoir un peu soulever des montagnes. Voilà. Après, c'est vrai que le stress peut à un moment être aussi limitant. Si je suis vraiment trop stressé, je vais perdre mes moyens, peut-être je vais commencer à rougir, je vais bafouiller, je vais avoir mon corps qui va faire des mouvements un peu incontrôlés comme ça, qui ne sont pas forcément en rapport avec ce que je voudrais. Donc c'est déjà super de pouvoir noter que le stress, c'est ce qui, là, en l'occurrence, pour cette personne, lui permet d'être efficace et pertinent. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que l'ado qui pose cette question, est-ce que lui, ça lui parle ou est-ce que c'est juste la demande de ses parents ? Si c'est juste la demande de ses parents, ben, peut-être qu'à un moment, il faut plutôt essayer de voir dans l'interaction, dans le système familial, pourquoi est-ce que pour ses parents, c'est un problème, si pour l'ado en question, c'est pas un problème. Et peut-être travailler là-dessus. Si après, pour l'ado qui pose la question, pour lui, c'est un vrai problème à un moment d'avoir du surstress ou du mauvais stress, ouais, l'hypnose, elle va permettre de travailler là-dessus. Elle va permettre de peut-être aller revoir des situations où il y a ce mauvais stress. Essayer de voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver de l'apaisement. Peut-être aussi tout simplement, je dis tout simplement, c'est vite dit, mais aller voir à un moment quelle est la cause de ce mauvais stress, et puis peut-être on peut travailler sur cette cause. Peut-être qu'on peut travailler sur des exercices aussi, pourquoi pas d'auto-hypnose, qui vont permettre de trouver de l'apaisement, de trouver aussi ce que, dans mon jargon, on parle de safe place, c'est-à-dire le lieu de sécurité intérieure. Un lieu de sécurité dans lequel, quand je m'immerge dedans, et ben je me sens vraiment très calme, apaisé. Et donc du coup, ça c'est des choses qui vont faire diminuer le stress.
D'accord. Et donc, c'est des outils qui, après, peuvent servir au quotidien, quoi. J'imagine, quand il y a une évaluation, quand il y a quelque chose qui se passe, la personne pourra se rendre dans son...
Complètement,
dans sa
parce
sécurité
qu'on sait...
intérieure et...
Complètement.
Ouais. Ouais. D'accord, ouais. Super. Et donc, pourquoi être stressé pourquoi on va dire que l'hypnose peut permettre de dominer le stress ? C'est-à-dire, l'hypnose, c'est forcément un appel au calme, c'est forcément... Explique-nous un peu comment tu vas gérer ça, toi.
Alors, il n'y a pas en hypnose un protocole qui permet de dire quelqu'un qui est stressé, on va le travailler comme ça.
D'accord.
Parce que derrière le stress, il y a plein de raisons diverses et variées qui peuvent être là.
Mm-hmm.
Et l'hypnose, c'est quand même quelque chose de très... l'hypnose thérapeutique, c'est dans une relation individuelle avec les besoins d'une personne. Et une personne qui est stressée, ça ne va pas du tout forcément être les mêmes raisons qu'une autre personne. Donc on va vraiment travailler sur quelque chose de très individualisé et il n'y a pas un protocole type. Par contre, pour répondre à ta question, ce qui me paraît intéressant, c'est vraiment de te dire que tous ces mécanismes, c'est des mécanismes, et notamment le stress, qui se mettent en place indépendamment de ce que rationnellement, consciemment, on se dit dans notre tête. Peut-être que par moment, on se dit, là, je veux avoir l'air super cool, je veux être sûr de moi, je veux avoir l'air apaisé, mais que pour autant, notre corps, il va communiquer quelque chose d'autre. Peut-être qu'à l'intérieur, on va être super stressé, on a beau se dire, calme-toi, ça ne marche pas.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, à un niveau qu'on pourrait dire automatique, certains diront inconscient. L'hypnose permet à un moment d'aller rencontrer ces niveaux automatiques, ces niveaux inconscients. Et si je vais les rencontrer, eh ben je peux peut-être leur proposer de changer, je peux peut-être leur proposer d'évoluer, je peux peut-être leur demander, tiens, pourquoi est-ce que tu es là? Et puis si je sais pourquoi je suis là, ben je peux peut-être leur répondre. Et l'hypnose permet ça, d'aller travailler sur les choses qui se font à l'intérieur de nous à un niveau automatique. Si je te dis là, est-ce que tu t'appelles Julie? Tu fais oui de la tête et je pense que tu n'en as même pas conscience. Ça se fait complètement tout seul. Si je te tends la main pour te dire bonjour, alors peut-être pas en ce moment avec tout ce qui est mesures sanitaires, mais si je te tends la main pour te dire bonjour, tu vas avoir un réflexe de tendre la main. Si tu écris la lettre A, il y a un jour où tu as réfléchi, je fais un rond, et puis après je descends avec mon stylo pour faire la queue du A. Tout ça, ça se fait aujourd'hui de manière complètement automatique. Et on a plein d'automatismes à l'intérieur de nous qui se mettent en place, qui se mettent en place à un niveau qui n'est pas conscient. Et si on veut travailler sur ces automatismes, par exemple, comme du stress qui pourrait arriver, entre guillemets, tout seul, l'hypnose, elle permet d'aller discuter avec ces automatismes.
C'est passionnant. Par contre, on a une deuxième question, Vincent, parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'hypnose fait un peu peur à certaines personnes.
Ouais.
Donc là, en l'occurrence, cette personne nous dit qu'elle a peur de se retrouver à faire ensuite des choses qui ne lui ressemblent pas. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur de l'hypnose?
Alors,
parce qu'on voit les shows là, enfin...
Oui, alors on va... Alors déjà, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle, même si ça peut reposer sur des choses similaires, sur des outils qui sont similaires, c'est quand même deux choses différentes. Il faut bien savoir que quand vous allez voir un spectacle d'hypnose, enfin de l'hypnose de spectacle, les personnes qui se retrouvent sur scène ont été hyper sélectionnées parmi l'ensemble du public.
Et
prendre, oui, il y a des tests qui sont mis en place en amont, etc. Et finalement, vont se retrouver sur scène les personnes qui vont être, on va dire, hyper réceptive. Donc il y a vraiment une sélection et moi, les personnes qui arrivent au cabinet, il ne suffit pas que je leur mette la main sur leur front et que je dise « Dors !» pour que d'un seul coup, elles partent en transe.
Je suis déçue, Vincent.
Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé pour toi. Donc ça, c'est un peu une distinction entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique aussi, une autre différence qui est vraiment importante, c'est que le but, c'est que la personne, elle vienne trouver des choses qui soient bonnes pour elle. Je vais voir quelqu'un pour faire de l'hypnose thérapeutique parce que je manque de confiance en moi, parce que je ne me sens pas en sécurité, je suis volontaire dans cette démarche. Et l'hypnotiseur, il va m'accompagner pour aller trouver des choses qui soient bonnes pour moi par rapport à ça. Donc a priori, je poursuis un objectif qui est bon pour moi. Donc j'ai tout intérêt à me laisser aller à cette démarche. A priori, en tout cas chez moi, c'est évidemment comme ça, peu de chance que l'hypnotiseur essaye du coup de me manipuler, de me mettre des choses dans la tête que j'ai pas envie, puisque c'est vraiment dans la relation, dans ce qui est bon pour l'autre que les choses elles se jouent.
Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
De manière simple, j'aime bien dire aussi que si vraiment l'hypnotiseur il avait des pouvoirs très importants comme ça sur la personne qui se fait hypnotiser, moi je travaillerais pour des agences gouvernementales de type CIA et je serais extrêmement, extrêmement riche, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est vraiment j'accompagne la personne dans la découverte de son hypnose. C'est elle qui est aux commandes, c'est elle qui peut choisir d'y aller, qui peut choisir de ne pas y aller. Puis elle peut aussi choisir juste d'être curieuse de comment est-ce que ça peut prendre en elle pour qu'elle puisse trouver des réponses qui soient bonnes pour elle.
Ouais, c'est une chouette réponse, merci. Une autre question. Je suis suivie par un psychologue car j'ai été victime d'attouchement par un membre de ma famille, mais je suis tétanisée dès que je suis dans un moment intime avec mon petit copain. Est-ce que l'hypnose est une solution pour surmonter ma peur? Alors, on peut parler de cette peur-là, mais on peut parler des peurs en général, j'imagine.
Ouais, l'hypnose est vraiment un outil assez super pour travailler sur les peurs. Soit en allant travailler sur la cause de la peur, soit en allant travailler sur des ressources. J'en parlais un tout petit peu avant par rapport à tout ce qui peut être
dans l'émission
espace
précédente,
de sécurité,
oui.
Ouais, intérieur. Soit aller travailler sur la perception que j'ai des choses, soit aller travailler sur tout ce qu'on appelle les traumas avec les syndromes de stress post-traumatique. Aller travailler sur un trauma en hypnose, ça va permettre de, pour utiliser une image, d'archiver le trauma. Quand j'ai un trauma et que ce trauma, dans mon quotidien aujourd'hui, il me pourrit un peu la vie. C'est parce qu'en général, le trauma, c'est-à-dire ce que j'ai vécu comme événement traumatique, n'a pas été archivé dans ma mémoire. Il est encore à vif, il est encore très présent. Je vais, dans des circonstances particulières de mon quotidien, je vais comme revivre à un moment ce trauma. Je vais avoir des flashbacks, je vais avoir le corps qui est tétanisé, je vais être très très mal. Je peux être du coup, par exemple, complètement bloqué dans le cadre d'une relation intime. Et aller faire un travail sur le trauma va permettre de l'archiver dans la mémoire, de le remettre bien à sa place dans le passé pour arriver à
oui, il ne s'agit pas de le faire oublier ni de le nier. Hein.
Non, il n'y a rien à oublier. C'est vraiment cette idée de... le trauma, c'est... aujourd'hui, il se passe quelque chose et puis c'est comme si ça me replongeait direct dans l'événement traumatique, quoi. Et donc, du coup, je suis complètement bloqué. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui revient direct à ça. Donc, ça n'a pas été archivé. On pourrait presque utiliser une image de dire que quand j'ai archivé le trauma, ça veut dire que je suis allé voir le livre et puis je l'ai regardé comme ça, le livre où il y a le trauma. Mm-hmm. Et puis je lui ai dit, ok, toi, tu appartiens au passé. Je me mets en observateur de tout ça. Ok, tu es là. Et puis maintenant... je te referme, mais ça ne veut pas dire je te referme, et puis je vais te mettre dans la bonne étagère, dans bonne archive à l'intérieur de moi. Et puis si tu es dans l'archive, ben, je ne t'ai pas oublié, mais il y a quelque chose qui est classé. Et je peux à un moment arriver à dépasser ça.
Est-ce que toutes les peurs viennent donc d'un trauma? Parce que je ne sais pas, quelqu'un qui... Moi, je peux donner mon exemple.
Ouais.
Moi, j'ai peur des cafards. Mais vraiment, hein. Enfin, voilà, j'ai vécu en Afrique du Nord et ils étaient gigantesques. Et puis voilà, j'ai vécu avec eux pendant des années parce que c'est impossible de les éviter. Et j'arrivais à les prendre par les antennes, etc. Enfin, vraiment à les toucher, etc. Mais je sais pas, cette peur était quand même très, très présente. Est-ce qu'avec l'hypnose, on peut vaincre ce genre de peur qui est plus une phobie, j'imagine, mais qui vient de je ne sais où, hein, d'ailleurs?
Alors... quand on parle de trauma, en général, on parle d'événements particulièrement importants et
voilà,
qui entraînent à un moment des choses de l'ordre d'un stress important. Aujourd'hui, une peur n'est pas forcément liée à un gros trauma. Peut-être, je ne vais pas tout à fait répondre à ta question, mais peut-être une précision qui pour moi me paraît importante, c'est... une peur, c'est utile, quoi. Ça a du sens d'avoir peur.
C'est ce qui nous a permis de survivre.
Voilà. Donc, du coup, je crois que la question, c'est... l'hypnose peut servir à ça. C'est plutôt si la peur que j'ai, et qui donc n'est pas forcément liée à un trauma, juste pour faire le lien par rapport à ta question, en tout cas pas un truc compliqué.
D'accord.
Est-ce que cette peur, elle me pourrit la vie au quotidien, quoi? Si ma peur, sur une échelle de 0 à 10... elle est à 9 et que du coup je suis vraiment très très embêté avec cette peur dans mon quotidien, et ben peut-être que c'est une peur qui a une utilité et la peur elle sert à quelque chose, mais c'est trop élevé, elle me pourrit trop la vie.
D'accord.
Donc à ce moment-là, on va travailler pour faire descendre le niveau de la peur à un niveau qui soit plus correct. Mais la peur, elle a une utilité et il s'agit surtout pas de se dire je supprime ma peur, puisque la peur, elle a du sens. Si je travaille sur une phobie, par exemple, L'idée, c'est bah, peut-être que ta phobie des cafards, c'est ça. Si elle est à 9, que tu la ramènes à un niveau à 6. Mais si demain, tu te retrouves face à 4000 cafards devant toi, ça y est, tu vas faire une crise de panique là, dans le studio. Il ne s'agit pas non plus que tu te dises « Ah, moi, je suis super cool, j'étais chez mon hypno hier et je n'ai même pas peur de 4000 cafards. » Voilà, l'exemple est un peu tiré par les cheveux, mais à ce moment-là, la peur, elle a une utilité aussi, et c'est intéressant de comprendre cette peur, mais peut-être aussi de la ramener à un niveau acceptable.
Voilà, de dire aux ados qu'avoir peur, c'est complètement légitime. Et d'ailleurs, ils adorent se faire peur en regardant des films, etc. Voilà. Donc voilà, elle a une utilité. C'était quoi, flight or fight?
Ouais, ça, c'est les trois réponses par rapport à la peur possible. Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Donc, merci pour cette réponse. La question suivante. Une copine à moi est sujette à des crises de boulimie. Est-ce que je peux lui conseiller une thérapie par l'hypnose?
Oui.
Mais pas que.
Pas que ou que.
J'adore le oui.
Pas que ou que, en fait. Hein. Alors, quelqu'un qui a un comportement boulimique, donc avec des problématiques alimentaires, si la personne se met... si ça devient vraiment dangereux pour sa santé, si derrière il y a une très grosse dépression, si il y a des comportements de mutilation,
etc. Peut-être qu'il y a sujet à des crises de boulimie, voilà. C'est ce que tu veux dire, il y a forcément voilà. D'autres choses.
Peut-être qu'à un moment il y a une nécessité aussi, pourquoi pas, et pour faire le lien avec d'autres questions ou des choses qu'on n'a peut-être pas forcément abordées de manière directe, peut-être que ça vaut le coup d'aller voir un psychiatre, peut-être qu'il y a besoin d'un soutien médicamenteux pour arriver à traverser une période peut-être particulièrement difficile pour moi et éviter de faire une bêtise. Le psychiatre aussi peut permettre à un moment de donner des médicaments qui vont permettre de réguler un peu l'humeur.
Mais maintenant, une boulimie, venir te voir a du sens dans ces cas-là aussi.
Complètement du sens. Un peu comme je le dis, de travailler depuis tout à l'heure, pour travailler sur de quoi j'ai besoin, sur mes ressources, sur qu'est-ce qui fait que j'ai un comportement boulimique. Très souvent, ça a un rapport avec l'image de soi, avec la confiance que je peux avoir de moi, avec mon rapport à mon corps. Souvent, je dis aussi que le ventre, on parle de boulimie, le ventre, c'est un deuxième cerveau qu'on a. Il y a la fameuse image de la boule dans le ventre. Des fois, on a le ventre serré, puis on dit bien « ça me fait triper », ou on dit « parler avec les tripes ». Il y en a qui boivent des torboyaux. Le ventre aussi, il y a plein de neurones dans le ventre. Je ne sais plus combien il y a de neurones, mais il n'y en a pas que dans le cerveau, il y en a plein dans le ventre. Mm-hmm. Le ventre vient aussi nous dire des choses.
Le fameux microbiote là, dont on nous parle beaucoup en ce moment.
Voilà.
Ouais. Tout ça, on peut travailler dessus. Donc.
On peut travailler dessus, aller écouter ce que vient nous dire le ventre. Si on va écouter ce que vient nous dire le ventre, ben peut-être qu'on peut travailler dessus.
Super, merci. On avait une question toute mignonne. Mm-hmm. C'était combien de séances dois-je faire pour oser dire à elle que je l'aime follement ? C'est tout mignon, ça ?
Ouais, c'est mignon.
Mais il n'y a pas de nombre de séances définies. Venir pour oser.
Disons que...
Si c'est de la timidité, si c'est... Voilà, ça, on peut travailler dessus, j'imagine.
Je pense que... Allez, soyons un peu présomptueux. Je pense que si juste à un moment, je suis un peu timide et puis j'ose pas le dire parce que j'ai peur à un moment de sa réaction, etc. Je pense qu'une séance, ça suffit. Allez, on prend les paris. Après, si derrière cette timidité, il y a une trouille bleue des autres.
Problème d'estime de soi.
C'est un gros problème d'estime de soi. Si au-delà de cette peur de déclarer mon amour, j'ai les jambes qui flagellent à l'idée d'aller à l'école, que je me sens très mal dans ma peau, que j'ai un rapport à mon corps, à l'image de moi-même qui est assez détériorée, on voit bien qu'à ce moment-là, le fait de ne pas arriver à déclarer sa flamme,
il faudra plus d'une séance.
C'est un symptôme d'un truc un peu plus
profond.
Voilà,
on est sur autre chose, bien sûr.
Et ça vaut le coup d'aller travailler... d'aller travailler au-delà.
Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que tu fais des interventions au milieu scolaire, toi ?
Non, mais pourquoi pas ?
Ouais, ce serait chouette.
Pourquoi pas ? Ouais.
Donc, tu pourrais le faire à grande échelle. Enfin, c'est à grande échelle. je m'exprime mal. Je veux dire, on pourrait travailler l'hypnose sur toute une classe, par exemple. Ou sur un groupe, je veux dire, au moins.
Peut-être alors, pas pour 30, moi, l'hypnose, c'est quand même dans la... Alors,
c'est quand même de
là,
l'individuel.
Tu m'as demandé à un moment si on pouvait faire un petit exercice à la fin, si on a le temps. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'individuel, quoi. Je ne fais pas de l'hypnose... Alors,
C'est pas comme la sophro, mais... on peut travailler sur tout un groupe.
Ben on peut, mais à un moment, pour moi, c'est vraiment dans l'interaction, quoi. C'est-à-dire que aussi, on a l'image en hypnose comme ça que je suis là, je suis complètement endormi et que je peux pas parler avec l'autre. Non, en fait, je peux parler avec mon hypnothérapeute. Je peux lui dire ce que je ressens, les images qui m'arrivent, les sensations, etc. C'est vraiment une adaptation à une personne qui a une problématique particulière.
D'accord.
Et bien évidemment, deux personnes, même si elles présentent peut-être les mêmes symptômes, c'est pas la même histoire derrière, c'est pas la même personnalité. Sûr. Et si on est dans un travail thérapeutique, on est dans un travail là, dans le cadre d'une relation, dans l'hypnose, dans une relation individuelle.
D'accord, merci. On a une question de parents. Est-ce qu'on peut faire une thérapie familiale dans l'hypnose ? J'ai trouvé ça sympa comme question.
Bah, c'est un peu la même réponse que ce que je dirais avant, c'est-à-dire que vu qu'on est dans une relation individuelle quand même, en tout cas dans ma pratique, quand on fait de l'hypnose, on n'accueille pas une famille de 5 personnes comme ça, et puis on les met tous en hypnose, et puis hop, ça règle le truc. Ça fonctionne
pas.
Ça serait chouette, mais je ne sais pas si c'est faisable, j'y crois pas trop. En tout cas, moi, je ne le fais pas, quoi.
D'accord.
Mais pourquoi pas ? Enfin, voilà. En tout cas, là, aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué.
Et toi, tu t'es intéressé aussi à la gestalt et tout ça, me semble.
Oui, parce que l'hypnose, c'est pas ma seule pratique. Et on voit bien qu'à un moment, une famille, c'est un système, quoi.
Voilà.
C'est un système avec des interactions.
Donc, on peut quand même venir te voir, c'est ça que je voulais dire.
On peut venir me voir, ouais. On peut venir me voir. Et on va pouvoir travailler sur le système, sur les besoins de chacun, sur comment ce système, il évolue. Quitte après à ce que monsieur, madame ou l'ado disent mais moi j'ai un besoin particulier de travailler dans le cadre de ce système sur cet aspect-là. Et à ce moment-là, l'hypnose peut être un outil intéressant.
D'accord, merci. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour se mettre à l'auto-hypnose ? Il y a des vidéos en ligne et tout ça, mais bon, on ne sait jamais ce qui est valable de ce qui ne l'est pas. On va donner les conseils et puis après, comme ça, on pourra faire l'exercice.
Ouais.
Hein ?
Alors, des conseils sur l'auto-hypnose. La chaîne YouTube de Thibaut Gouthier.
D'accord, Thibaut Gouthier,
qui est pas mal. Il y a un bouquin aussi qui s'appelle Auto-hypnose d'un auteur qui s'appelle Antoine Garnier, qu'on trouve sur Internet. Et après, peut-être juste au-delà de l'auto-hypnose, enfin quoi que, il y a mais alors ça c'est payant, il y a un accès qui s'appelle Psychonaut, qui se trouve aussi sur Internet, qui est vraiment des vidéos d'accompagnement et d'apprentissage de l'auto-hypnose. Et qui fait partie d'une école à Paris qui s'appelle l'Arche, une école d'hypnose. Et justement, le directeur de cette école, qui s'appelle Kevin Finel, et ça peut être intéressant aussi pour découvrir l'hypnose, il y a en ligne ce qu'il appelle des cabinets publics, qui sont des cabinets où il présente ce que c'est que l'hypnose et il présente des démonstrations d'hypnose.
Ah,
donc ça peut être intéressant super. Aussi, les cabinets publics de Kevin Finel.
Et on a une appli, quelque chose que tu conseillerais ? Pas particulièrement ?
Non, pas d'appli, moi. J'ai pas d'appli. Les auto-hypnoses, la guidée, par exemple, de Thibaut Gouthier, me paraissent être très bien. Si à un moment, il y a une histoire d'investissement, je pense que alors là, c'est la chaîne Psychonaut, qui est sur Internet. Je sais pas s'il y a une appli, mais qui, je pense, est pas mal. Mais là, c'est payant.
Super. Bon, bah, écoute, il nous reste un peu de temps. Je pense qu'on va pouvoir faire notre exercice.
Ouais, ça marche. Alors, ce que je vous demanderais, c'est de vous asseoir confortablement, de prendre une position assise et à la fois stable et confortable, et de vous poser la question de est-ce que la position que j'ai là, c'est la position la plus confortable que je peux avoir dans l'instant présent ? À la fois assis et en même temps confort et droit. De prendre une grande inspiration. Une grande expiration et de renouveler ça deux fois. De surélever légèrement vos deux mains et de les mettre face à face, les paumes l'une en face de l'autre, un peu comme si les mains se regardaient. Et de mettre ça face à face, un peu comme si vous teniez entre les mains un petit ballon. D'ajuster vos épaules, de détendre les épaules et les coudes détendus aussi contre le corps. Voilà, de trouver une position agréable. Maintenant que vous avez fait ça, volontairement, consciemment, lentement, vraiment lentement, à votre rythme, levez légèrement la main droite. Alors si les mains étaient déjà très levées, vous pouvez les baisser avant, pour qu'elles soient un peu plus hautes que l'horizontale, et après, légèrement lever la main droite, lentement, et la redescendre, consciemment, pour que de nouveau elle fasse face à la main gauche, comme si elle se regardait en miroir. Et renouveler les choses avec l'autre main, la surélever légèrement, et la redescendre. Super. Et une dernière fois, faire ça avec les deux mains, toujours volontairement, consciemment. Lever les deux mains lentement, et les redescendre. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Les deux mains se regardent comme si elles tenaient un petit ballon. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce que je vais vous proposer, ça va se faire à un autre niveau, à un niveau complètement automatique. C'est-à-dire que vous n'avez strictement rien à faire pour que ça se fasse, surtout pas faire semblant. Rien à faire non plus pour que ça ne se passe pas, mais plutôt être curieux de comment le corps peut agir par lui-même, tout seul, automatiquement. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, laissez les mains toutes seules à leur rythme, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Laissez les mains se rapprocher l'une de l'autre. C'est OK ça?
Oui.
1. 2. 3. Et juste observer comment les mains peuvent, toutes seules, se rapprocher l'une de l'autre. Et peut-être que ça a déjà commencé ou pas encore. Peut-être que c'est plus la main gauche qui rejoint la main droite, ou la main droite qui rejoint la main gauche. Il est possible aussi que vous vous disiez à l'intérieur, c'est bizarre en fait, c'est moi qui le fais. Et puis plus les mains se rapprochent, et puis peut-être elles sont même déjà collées l'une à l'autre. Plus ça se fait, plus c'est comme aller contacter cette partie qui fait que les choses peuvent se faire tout seules. Et je ne sais pas trop si vous avez les yeux ouverts ou les yeux fermés. S'ils sont ouverts, j'aimerais que consciemment ou volontairement vous ouvriez les yeux. Et soit les mains sont déjà touchées, soit elles sont en train de se rapprocher. Bref, peu importe, vous pouvez regarder les mains ou l'espace entre les mains. Et regarder les yeux ouverts cet espace de manière très forte. Comme si vous fixiez votre regard sur cet espace. Et alors que vous fixez votre regard, votre vision sur cet espace, laissez les yeux tout seuls, alors qu'ils sont complètement focalisés, laissez les yeux tout seuls se fatiguer. Un peu comme quand on a eu une grosse journée de travail et qu'on est très fatigué, parce qu'on a fait plein de choses. Alors au début, les yeux clignent un peu plus, peut-être la vision devient un peu plus floue. Et c'est comme s'endormir, de plus en plus fatigué et endormi. Et laissez votre corps s'endormir. S'endormir d'un sommeil hypnotique. Les yeux clignent. Je ne sais pas trop quand est-ce que vous allez décider de fermer les yeux. Peu importe, vous pouvez les laisser ouverts aussi. Juste vous rentrez à l'intérieur. Et plus vous rentrez à l'intérieur, plus l'expérience, pas tout à fait ordinaire, peut devenir extraordinaire. Les mains descendent. Rentrez à l'intérieur. Et laissez venir à vous cette sensation, cette vision de votre espace de sécurité intérieure. Ça peut être un endroit connu ou inconnu, ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur, la montagne, la mer, et dans cet espace, vous êtes en totale sécurité. Et ressentez ça. Et peu importe que vous vouliez continuer l'expérience là, et rentrer, vous immerger encore plus dans votre espace de sécurité intérieure, ou que vous souhaitiez juste arrêter l'expérience, ce choix vous appartient. Quand vous serez prêt, vous vous réveillerez en pleine forme, vous ouvrirez les yeux et serez prêt pour continuer cette belle journée. Merci à vous.
Waouh! C'était fort, hein? Je sais pas chez vous, mais ici, j'ai vécu un vrai truc.
Cool.
Ouais, et ça fait même pas peur.
Et ça fait même pas peur.
Eh ouais. Ben merci beaucoup, Vincent.
Merci à toi.
Merci, merci. Et puis, donc, on va mettre tes coordonnées sous le podcast de l'émission. On file.
Ça marche.
Au revoir.
Merci, au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,